La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet. Eh bien, bien le bonjour dans cette midinale de Radio Piquet en ce 19 septembre 2022. Nous voilà de retour pour une 8e saison avec cette radio. Et bah, pour commencer aujourd'hui, j'ai l'honneur et la joie de recevoir, enfin d'avoir autour de la table Bastien.
Salut.
D'avoir Kevin.
Salut.
Et d'avoir Nico.
Salut.
Et Seb pour vous servir à la technique. Donc, nouvelle saison, nouveauté à la radio, encore un déménagement, on aime bien ça. Nous voilà donc en direct de l'espace Pierre Perret, à Brest, toujours, bien sûr, ça n'en change pas, dans le quartier de Pontanezen. On en profite pour remercier Luc, qui est le directeur du Centre Social Horizon, qui nous a proposé cette salle. Et voilà, c'est comme ça qu'on va démarrer, en force.
Luc et toute l'équipe salariée, parce qu'on...
Et toute l'équipe voilà. Salariée, ah oui, pardon, bien sûr, oui. Parce qu'on a été accueillis, mais très, très, très chaleureusement.
Et très rapidement.
Et très rapidement, et efficacement, et voilà, merci à vous. On commence comme ça, et de toute façon, on aura encore l'occasion de les remercier tout au long de l'année, parce qu'on fera sûrement des trucs avec le centre social, avec d'autres associations qui sont au sein de cet espace Pierre Perret. Je pense qu'on va passer une bonne année, n'est-ce pas ?
Oui, oui.
Alors, eh ben nous, on va commencer avec, on va reprendre nos bonnes habitudes. Première partie, revue de presse, qu'on appelle revue de presse. Et il me semble que Bastien, il avait des choses à dire vis-à-vis de cette revue de presse.
Ouais. Alors, moi, je me suis pas mal intéressé à la rentrée sociale et donc à pas mal d'articles sur le site Révolution Permanente qui parlent notamment des syndicats. Alors, il faut savoir qu'il y a deux dates principales, c'est le 22 septembre pour la mobilisation nationale de la santé et de l'action sociale. Donc ça, c'est surtout à l'appel de la CGT. Et il y a une intersyndicale aussi le 29 septembre pour les salaires, les pensions, les bourses d'études et les minima sociaux. Donc là, c'est la CGT, FSU, Solidaire, l'UNEF, le FIDEL. FIDL, je sais pas comment on dit.
FIDL.
C'est un syndicat, ouais, FIDL. C'est un syndicat lycéen. Il y a aussi la Voix lycéenne et le MNL. Et donc voilà, moi j'ai été un peu surpris aussi d'apprendre que du coup, FO notamment n'était pas de la partie. Mmh. Alors du coup, ils ne sont pas du 22 et ils appellent pour le 27, c'est-à-dire sur ce qui concerne la santé. Hein, donc ils rejoignent pas. La CGT, Solidaire et tout ça, quoi. Et pareil pour le 29, en fait. Et donc, du coup, voilà, je me suis basé un peu sur des articles de Révolution Permanente. Il y avait un qui s'appelait « Les syndicats reçus par Dussopt. Face au plan de contre-réforme, il faut rompre le dialogue social. C'est-à-dire que, dans un premier temps, la CGT et FO ont boycotté le Conseil national de refondation... Donc amené par Macron, c'est le type de conneries façon grand débat, convention citoyenne sur le climat et tout ça, quoi. Donc un peu du cause toujours et tout. Bon, ils ont bien fait, quelque part, de pas y aller, mais ils se sont remis dans la foulée, quand même, quelques jours après, dans la table des négociations, et toujours dans ce dialogue social. Donc voilà, on peut se poser la question si ça sert à quelque chose d'y aller, tout en sachant que c'est un peu de... Du théâtre, ils ont déjà prévu de faire de la casse sociale, et puis bon, et voilà, ils font style, on dialogue, mais bon, Macron et voilà, sa politique néolibérale, son gouvernement, ils ne céderont rien, quoi, et puis ils sont partis pour relancer la réforme des retraites.
Ouais.
Alors, il avait promis de ne pas le faire tout de suite, je crois.
Ouais.
Et donc, du coup, là, il pourrait, le gouvernement a laissé entendre. Voilà, qui n'excluait pas de passer en force sur l'âge de départ légal à l'automne. en profitant pour cela du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc ça, ils glisseraient ça dans, là-dedans, quoi. Donc ça, c'est des choses, des bizarreries un peu, moi, qui m'échappent un peu, je veux dire. Donc voilà, là-dessus, Laurent Berger de la CFDT a expliqué que, voilà, qui, en gros, qu'il était prêt à s'engager sur des sujets comme l'accompagnement des bénéficiaires du RSA ou des demandeurs d'emploi longue durée, et que la sérénité ne sera pas de mise si l'automne est perturbé par une mesure brutale, donc réforme des retraites et tout, quoi. Et donc l'article de Révolution Permanente dit que c'est, je cite, une façon de signifier que son syndicat est prêt à accepter l'offensive contre les chômeurs et précaires, à condition que celle des retraites soit repoussée, qui constitue une véritable trahison. Donc c'est pas qu'on s'attendait à... Ah, quelque chose de...
Il n'avait pas tout révolutionné, ces gens-là, quoi.
De la part de la CFDT, mais bon, c'est quand même assez navrant de voir que, voilà, qu'ils sont prêts à sacrifier, en gros, une partie des classes populaires pour une autre, en fait. Et bon, c'est sûr que les retraites, ça va toucher beaucoup de monde, hein, si l'âge... Donc l'idée, ça serait pour le gouvernement de passer l'âge de retraite à 60... L'âge légal 5. De départ à 65, hein, c'est ça?
Ouais, légal. Et on est à... combien d'annuités ils mettraient sur la table, ce coup-ci, là?
Attends,
qu'on est à 41, 42 déjà en ce moment.
On est à 42, ouais.
La vache.
Après, t'as une augmentation du nombre d'annuités par période, je crois. Enfin, c'est ce qui est programmé, quoi.
D'accord, donc ce sera 70 ans la retraite, quoi.
Bah, pour ce qu'ils prévoient. Je sais pas.
C'est trop loin.
Après, pour repartir sur la question, donc je sais pas si qui exactement est-ce que tu citais par rapport au fait de pas se mobiliser sur la réforme du chômage ou quoi.
C'était Laurent Berger, ouais.
Ouais, moi ce qui me choque un peu en fait, c'est en me baladant. Alors je suis pas anti syndicat ou quoi que ce soit, mais ce qui me choque un peu, c'est qu'en me baladant à Brest, par exemple, sur les affiches. Les affiches d'appel à la mobilisation pour le 29 septembre, il n'est fait nulle part mention de la réforme du chômage. Donc il y a, je cite, hein, je l'ai sous les yeux, c'est augmentation des salaires, le SMIC à 2 000 €, les 32 heures par semaine, la retraite à 60 ans et l'égalité femmes-hommes. Et encore une fois, en fait, on constate que c'est que les revendications par rapport aux chômeurs, enfin, par rapport à toutes les personnes qui sont écartées de l'emploi, en fait, elles apparaissent encore, elles sont encore absentes, en fait, en tout cas des affiches. Je ne sais pas s'ils vont se trouver comme il y a 2 ans, où ils vont complètement les oublier de leur discours, mais en tout cas, là, ce constat-là, il est dégueulasse, quoi. Bref, voilà.
Moi, je peux réagir.
Oui, bien sûr, Nico.
En tant que quoi? En tant que, je sais pas, en tant que...
Individu?
En tant qu'être humain.
Être humain. Qui... Non, mais je sais pas, je réagis à juste, par exemple, ce à quoi tu as fait référence, là, l'affiche du 29, c'est ça? Mmh. Qui dit retraite à 60 ans, SMIC à 2 000 €, si je sais,
ouais, je sais pas quoi. 32 heures par semaine, augmentation des salaires, égalité
familiale. En fait, à la limite, là, quand on entend ça, on peut se dire même que c'est des revendications assez... assez fortes, quoi, qui viennent poser des choses qui remettent en cause le fonctionnement du marché du travail, etc. Sauf que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est de l'affichage, en fait, quoi, c'est de la com de la part des syndicats, parce que dans les faits, depuis 30 ans, ils cogèrent la société capitaliste avec l'État. Donc ils peuvent afficher, tiens, on va faire une grosse manif et on va dire la retraite à 60 ans, la semaine des 32 heures. Mais à côté de ça, dans les faits, ils sont en train de d'avaliser des réformes de merde depuis 30 ans. Donc, je sais pas, peut-être que je caricature à fond, mais on a déjà eu en fait plein de débats sur le rôle des syndicats, ouais, sur la place des syndicats dans notre société, sur leurs limites, sur leurs faiblesses, etc. Au bout d'un moment, il ne s'agit pas d'être anti-syndicat, etc. Mmh. Parce que le syndicat, par définition, c'est une forme comme une autre d'organisation politique qu'on fait vivre avec nos convictions et nos luttes et nos histoires, quoi. Il ne s'agit pas de rejeter ça. Il s'agit juste de voir concrètement c'est quoi aujourd'hui le rôle et la place d'un syndicat comme la CGT, par exemple, dans notre société. Bon, personnellement... depuis 30-40 ans, la CGT est un rouage qui gère avec l'État et avec les syndicats de patrons, qui gère les soi-disant crises sociales, économiques, etc. Et qui n'apporte rien du tout en termes de droits gagnés, en termes de perspectives révolutionnaires, qui n'apporte rien du tout. Bah, c'est un constat, quoi.
En fait, ils sont surtout là pour défendre les droits des salariés au sein de l'entreprise, quoi, quand il y a un souci, mais...
Ouais, ils sont surtout là dans une certaine perspective très corporatiste, parce qu'en fait, souvent, ils ne sont même pas là pour ça. Parce que souvent, en fait, les vraies luttes qu'il y a eu, par exemple, si on parle d'Honnête, par exemple, la lutte à Honnête, la société de nettoyage sur Paris, ou si on parle de... Bon, j'ai plus en tête, quoi, il y a eu plein de conflits, en fait. Ça ne vient jamais des dirigeants syndicaux, hein. Ça vient des gens qui s'organisent à la base et qui peuvent s'appuyer sur un délégué syndical qui fait son taf parce qu'il connaît bien le terrain. Mais ça vient jamais des syndicats en tant que tels.
Ouais, mais je voulais réagir un peu à ce que tu disais. Non, mais tout va bien. Monsieur,
on a baissé les micros, c'est pas grave.
On est fatigué aussi là, ce matin. C'est pas...
La reprise est dure.
Ouais, et puis d'autant plus que là, il y a une division syndicale, comme je le disais. Donc je voulais préciser, c'est que le 22 septembre, la CFDT et l'UNSA, ils font une date, ils appellent à manifester le 27 septembre sur la santé et tout. Donc ils sont pas de la date du 29 septembre à l'appel de la CGT et de Solidaire. Et donc, ils vont reprocher, en fait, à la CGT Solidaire d'avoir fait un appel commun avec la NUPES, la NUPES, et plus le NPA, donc voilà, des partis politiques, et aussi des associations, je ne vais pas tous les énumérer. Mais en gros, toujours ce fameux truc, en se réfugiant dans la charte d'Amiens, donc à l'appui, en disant « le syndicat n'a pas vocation à faire de la politique », donc du coup, on va complètement séparer les choses, et comme si on restait dans des espèces de revendications purement immédiates, et comme s'il n'y avait pas de volonté de changer le cadre de négociation, qui en fait permet surtout de négocier le moins-disant social depuis 20, 30, 40 ans. Et voilà, c'est Frédéric Lordon, je vais vous lire cette citation là, parce qu'il avait, il résumait ça dans une citation assez courte tirée de son livre Figure du communisme, publié à La Fabrique en 2021. Donc il dit « Quand le cadre est devenu aussi adverse, continuer de vouloir s'y battre sans même esquisser la perspective de le transformer, tout en continuant d'en espérer des issues différentes, est un signe de santé stratégique et peut-être mentale défaillante. Refaire un cadre, ça n'est pas de la revendication, c'est de la politique, pas la même grammaire. Les confédérations réellement combatives, entre parenthèses, il n'y en a pas 36, fermez la parenthèse, doivent faire l'analyse de la fermeture définitive de l'espace social-démocrate dans lequel leur activité était fondamentalement inscrite et mutée en conséquence. Il n'y aura pas de salut hors d'un syndicalisme s'assumant comme syndicalisme politique et même comme syndicalisme révolutionnaire. Pour les syndicats qui ne se sont pas vautrés dans la collaboration de classe comme pour les forces politiques de transformation, contempler la chape écrasante des structures néolibérales n'est pas déprimant. On y gagne et l'abandon des illusions condamnant à l'échec sans fin et l'identification plus claire de ce à quoi il faut réellement s'attaquer. » Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle ou si, c'est clair, mais c'est l'idée de sortir de toute façon de ce cadre de négociation tout pourri et de passer un syndicalisme révolutionnaire. Il faut savoir que dans la charte d'Amiens, il y avait quand même l'idée de sortie du capitalisme et de gestion de la production par les syndicats. Donc c'était inspiré de l'anarcho-syndicalisme, clairement. Dans l'article de Révolution Permanente, enfin un autre d'ailleurs, qui s'appelle 29 septembre, FO refuse d'appeler à la mobilisation et divise les travailleurs. Donc ils évoquent un peu tout ça, cette nécessité de politisation. Et donc eux, ils disent que c'est d'une véritable journée de grève qui cherche à la fois à rassembler toutes les forces qui ont lutté ces dernières années, donc là on peut penser aux Gilets jaunes, au mouvement climat, à un peu tout le monde et tout, et qui soit donc capable de bloquer des secteurs entiers de la production dont nous avons besoin. Une telle journée réussie pourrait être un premier pas et serait un point d'appui pour exiger un véritable appel à la grève d'au moins 48 ou 72 heures. Parce que là, il faut savoir que c'est,
oui, c'est
une journée de grève que personne ne suit quasiment, avec une manifestation et tout ça, même s'ils couvrent avec des préavis la semaine avant, la semaine après, toi, si jamais il se passe quelque chose. Mais bon, voilà. Il n'y a pas de vraie volonté de coordination. Bon, d'ailleurs, là, l'article le dit plus loin. Donc, ils disent, dans l'article de Révolution permanente, qu'il faudrait se doter d'un programme qui donne envie de se battre, la hausse de tous les salaires, leur indexation sur l'inflation, mais aussi, face à la crise énergétique, l'expropriation sous contrôle des travailleurs des grands groupes de l'énergie. Donc là, on rejoint quand même l'idée que anarcho-syndicalise à la Charte d'Amiens, là, donc, que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, c'était en 1906. Et voilà, bon, avis personnel, je pense qu'il serait temps de revenir en fait à une politisation de surtout avec la question climatique, hein, de dire que voilà, le capitalisme détruit tout, les travailleurs, la nature, enfin l'environnement, voilà. Et donc, si on veut s'en sortir, il faut pouvoir sortir du capitalisme et il faut pouvoir reprendre notre souveraineté sur le travail, sur la production, décider quoi produire, etc. Mais là, je pars un peu loin.
Ah bah, c'est tout un programme, hein, de sortir du capitalisme. Hein. Ça ne va pas se faire, malheureusement, en deux jours.
Il y a aussi le dire, quand même, quoi. Enfin, de proposer une politisation des mots, remettre le rapport capital-travail au centre.
Je suis en total accord avec ce que tu as dit, puis la citation de Lordon, quoi, qui vient poser le problème au niveau auquel il faut qu'il se pose, en fait, c'est-à-dire au niveau macro-social.
Ouais.
Et en fait, les syndicats, déjà, devraient se poser la question. Si c'est vraiment des syndicats, anticapitalistes, voire révolutionnaires, quoi, ça, c'est l'histoire de la CGT, quand même. Hein. Je veux dire, t'as rappelé la Charte d'Amiens, etc. Bon, c'est leur histoire. Si vraiment ils sont cohérents avec cette histoire, ils viennent poser ce problème à ce niveau-là. On va sortir du cadre des rouages du capitalisme. On arrête les négociations avec l'État et les patrons. Voilà, on arrête aussi de négocier au niveau européen, aussi dans le cadre des traités européens qui empêchent tout, en fait.
Et pour être un peu dialectique, parce que pour pas oublier que, bon, il y a des tout petits progrès, on va dire que, si on peut appeler ça un progrès, mais moi je pense que oui, il y a cet appel commun de syndicats, associations et partis politiques, comme lors du Front populaire, que la CGT a fait, et solidaire, et c'est la FSU aussi. C'est relativement nouveau sur quelques années, là, ils en ont dû faire quelques-uns avant. C'est pas fou, hein, je sais. Mais ça, voilà, c'est cette petite avancée. Par contre, un syndicat comme EFO va prendre ce prétexte pour pas appeler à cette date, vu que justement, il n'y a pas cette séparation entre partis politiques et syndicats, quoi.
Bon, sur ce sujet, est-ce qu'on a fait le tour pour aujourd'hui ? Même si on n'a jamais fait le tour de tous ces sujets, mais on pourrait rebondir sur...
Juste ajouter que du coup, la marche proposée par LFI le 16 octobre contre la vie chère, il était question au départ qu'il y ait les syndicats et tout ça, et bon voilà, ils ont fait complètement machine arrière là-dessus, pour la CGT y compris, et solidaire, je crois aussi, hein, pour l'instant, et donc du coup, de ne pas participer, parce que toujours pour assurer cette fameuse séparation entre partis politiques et syndicats.
Et les filles tout seules sur cette date ?
Alors, je crois que les autres partis de la NUPES suivent. Le PSF et ce bon vieux Fabien Roussel jouent la distinction. Pour l'instant, ils laissent planer le doute sur la participation du PCF, on pourra en reparler d'ailleurs.
Mais tu voulais pas en parler, t'avais pas un truc à dire et Fabien Roussel, quoi.
J'avais la question de tout le débat qu'il y a eu, qui rejoint d'ailleurs un petit peu l'actualité syndicale quelque part, donc le débat qu'il y a eu sur le travail, donc avec notamment la ligne Ruffin et la ligne Roussel.
C'est pas la même.
Enfin, ben, c'est pas la même. En fait, si tu veux, je peux exposer un petit peu ça rapidement. C'est en gros, donc Ruffin a été élu dans une circonscription de la Somme à 60% environ. Et tout autour de lui, en fait, le RN grignote. Pareil dans le Nord, l'Est de la France et tout. En fait, des anciens bastions industriels, anciens bassins miniers, etc. Et donc, du coup, Ruffin faisait ce constat que... que c'était très dangereux et qu'il y avait ce vote populaire à reprendre et à ramener à gauche. Il ne faut pas oublier l'abstention, bien sûr, il y a beaucoup d'abstention. Et donc c'est une ligne stratégique en fait, qui est arrivée à la France insoumise. Et bon, moi j'avais été quand même assez stupéfait de voir une conférence de Mélenchon après les élections. Où en gros il disait tout va bien, on a limité la casse au deuxième tour par rapport au RN quoi. Alors ouais. Qu'il y a 89 députés de mémoire, enfin bon là j'ai entendu 85 il n'y a pas longtemps, mais je crois que c'est 89.
Ouais, 89
ouais. Qui ont été élus quoi. Donc il y en a plus que LFI et tout ça.
Il y en a 10 fois plus que d'habitude.
Et donc à cette conférence de Mélenchon, vous voyez Ruffin tirer la gueule. Pas applaudir et tout ça, mais moi je m'étais dit direct voilà, vu qu'il n'y a pas d'espace démocratique réel de débat sur la stratégie à l'intérieur de LFI, ça se fait par médias interposés et chacun avait commencé après les élections, quoi. Donc Mélenchon, Ruffin et tout. Et là, il voyait bien que Mélenchon ne reprenait pas du tout son diagnostic qui appelle une action, et donc, et au contraire, minimisait en gros. La montée du RN, et comme s'il fallait continuer comme avant, on va dans les quartiers populaires, tu vois, des grandes villes où il y a beaucoup issus de l'immigration, tout ça. Mais évidemment qu'il ne faut pas les perdre, ce serait stupide si tu... Mais voilà, donc Ruffin faisait le diagnostic d'abandon de la France des bourgs et des villages, donc notamment dans le nord et l'est de la France, où il y avait un fort vote RN, et notamment, ce qui revenait souvent dans sa campagne, c'était la stigmatisation des assistés, de ceux qui touchent les allocs, Et donc il disait que la gauche était vue comme ne défendant pas le travail, quoi, les travailleurs, enfin le travail. Ou la valeur travail, dit-il, mais bon, moi je pense qu'il aurait pu se placer de cette expression qui rappelle Sarkozy, machin, tout ça. Parce que ça rappelle trop un côté idéologique, un côté comme si le travail en soi, si tu le qualifies pas, si tu dis pas de quoi tu causes, c'était bien en soi, enfin, ça, youpi, quoi. Et donc il parle d'une tripartition, où t'as ceux qui travaillent et qui galèrent un peu, qui sont en gros pressés par eux en haut, les riches, les propriétaires des grands moyens de production, ça c'est moi qui rajoute, et en bas par ceux qu'ils appellent les assistés qui pourraient leur pomper leur revenu donc voilà, le Ruffin, lui, il parlait d'un conflit au bas à marteler, donc autour du clivage capital-travail, donc typiquement celui du mouvement ouvrier, de la gauche, du mouvement socialiste au sens large depuis le 19e siècle, pour unir les classes populaires contre les riches, quoi. Donc on a vu que Roussel, lui, faisait ce constat-là, sauf que lui, il opposait les classes populaires entre elles, c'est-à-dire en parlant de... en chiant, en gros, sur les allocataires... du RSA, du chômage, donc voilà. Et donc voilà, moi je pense que par rapport à cette histoire de travail, c'est assez simple en fait, c'est de pouvoir proposer aux gens, donc comme revendication évidemment, une revalorisation des salaires, des conditions de travail. Ruffin lui parlait aussi de redonner de la fierté aux classes populaires en valorisant leur métier. C'est un peu comme au PCF, il y a eu la figure du métallo, du mineur de fond, machin, fut un temps. Là, tu pourrais remettre en avant les métiers de seconde ligne, tous les métiers du lien, AESH, auxiliaire de vie sociale, aide à domicile. Et pour les hommes, c'est plus des métiers comme cariste, magasinier, ouvrier de l'agroalimentaire. Et typiquement, c'est des professions qui étaient très présentes dans les Gilets jaunes, en fait. Et pour les Gilets jaunes, on en a souvent parlé de France périurbaine. ou alors de France semi-rurale, rurale, et donc ça correspond à peu près, comme sociologie en fait, à celle qu'évoque Ruffin, et donc en gros, lui par exemple, il voit, il y a des scores, des fois, dès que tu t'éloignes en fait de la ville, et que tu vas un peu dans les petits bourgs et tout, là le RN monte quoi. Il y avait un article de Roger Mertely sur Regard qui était très parlant là-dessus, où il avait montré en fait que les grandes villes en gros attiraient un vote Macron LFI, Mélenchon à la présidentielle, et aussi bon législative et tout ça. Et plus tu t'éloignais des centres-villes, enfin, ou plutôt plus la taille de la commune était petite, plus tu allais à un vote RN. Et voilà, et de toute façon, en gros, le vote des employés et des ouvriers, par exemple, je peux vous donner des chiffres vite fait, hein, au premier tour de la présidentielle, les employés, c'est... là, ça va quand même, c'est 35,7 à gauche, 32,7 à l'extrême droite. Enfin, ça va.
Ça va.
Ouais. Ça va. C'est parce que c'est pire après, mais...
quand tu dis gauche, c'est quoi?
Je pense qu'ils ont... Je pense que c'est a priori, hein, c'est du NPA
à la NUPES.
Ouais, à la NUPES, quoi. Et donc après, en fait, t'as ouvrier, c'est 29,3% à gauche et 43,7% à l'extrême droite.
Aïe, aïe, aïe.
Et là, c'est pire aux législatives. Là, j'ai pas ma feuille sous les yeux.
Non, mais ça fait déjà mal à la tête.
Si les législatives...
Ouais, ça fait mal à la tête, mais faut le prendre déjà comme un constat, en fait. Voilà, on en est là sur les données électorales du vote aux dernières élections. Et même, il y a des montées du vote RN sur des catégories où il restait bas, par exemple, chez les professeurs. Chez les profs qui
T'as des chiffres là-dessus?
Là, j'ai pas des chiffres, j'ai lu un article là-dessus. Le vote des profs restait un vote à gauche, hein, grosso modo, oui. Social-démocrate.
Ce qui me paraît à peu près logique, normalement.
C'est en train d'évoluer. Et là, il y a eu clairement un changement aux dernières élections. Il y a eu une grosse montée du vote RN dans cette catégorie-là professionnelle.
On est bien.
Mais c'est parce que c'est une catégorie professionnelle en grande souffrance depuis des années aussi. Hein.
Mmh. Ah oui.
Et c'est pour ça que je disais, à un moment j'ai dit ça va, mais c'est parce que le chiffre m'a étonné. Non, mais le chiffre m'a étonné, c'est parce que, en fait, si tu passes aux législatives, t'es à 34,3% des employés qui votent à gauche, et t'es à 42,3% qui votent à l'extrême droite, tu vois. Et là, l'extrême droite est de 8 points devant, quoi. Et chez les ouvriers, là, ça s'aggrave encore. C'est 28% à gauche et 47,5% à l'extrême droite. Enfin bon, on va pas... Et par exemple, sur la Circo-Bresse rurale, l'extrême droite a multiplié son score par deux entre 2017 et 2022 aux législatives. Donc c'est une circo où t'as une partie de la rive droite de Brest, moins la Cavale Blanche, et puis après ça va sur Saint-Renan, Pouzanet, à l'ouest, jusqu'à Landounvez, Port-Salle, Port-Spoder, etc. quoi. Et donc voilà, et donc il y a eu tout ce débat en fait. Donc Ruffin, lui, disait que donc unification des classes populaires contre le haut, et de remettre aussi le clivage capital-travail au centre, et pour le travail de reparler du travail, donc de ces métiers-là. Donc j'avais dit de revaloriser les salaires, les conditions de travail, la fierté ouvrière autour de ces métiers-là, et il ajoute aussi quand même le sens du travail. Parce que si c'est creuser des trous, les reboucher, polluer des rivières, je sais pas moi, faire produire des machines à baf ou des trucs qui servent à rien... On s'en tape un peu. Et donc l'idée, c'est quand même d'unir les classes populaires autour d'un faire ensemble, dit-il, autour de l'écologie, quoi. Donc là, c'est en gros la planification écologique, ou du moins quelque chose, par exemple, tout ce qui est l'agriculture bio, donc avec moins d'intrants et qui demande beaucoup plus de main-d'œuvre. Et là, bon, ça pourrait être des métiers qui aient un sens. Après, il faut voir pour qui rafle la plus-value à la fin, si c'est pour... voilà. Après, si c'est pour des coopératives, si c'est pour des... des trucs sympas, quoi. Toi, là, peut-être aussi, ça aurait un sens et y aurait un... Enfin, t'imagines le chantier qu'il y a, quoi, et qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre là-dessus, quoi. Donc, je sais pas si vous avez des réactions là-dessus, mais...
On pourrait partir sur des discussions sans fin, sur le mode d'organisation, sur le mode de production, etc. Du coup, ouais. Bon...
Ça sera peut-être nécessaire à mettre en place d'ailleurs, mais pas dans la midinale là maintenant. Mais... dans un autre cadre.
Après, moi, je pense que, voilà, à la France insoumise et dans la gauche en général, il y a quand même un gros problème d'intégration des classes populaires en tant que militants et pas juste des victimes qu'il faut aider. Mais il faut qu'elles soient pleinement actrices de leur émancipation. Et ça, si tu veux, ça demande une vraie volonté politique du centre. Et ça, je pense qu'elle n'y est pas. Et comme elle n'y est pas non plus, celle que réclame Ruffin, c'est-à-dire de vraiment faire son diagnostic et après de travailler en conséquence pour reprendre des voies aussi dans ces territoires qu'il cite, hein, donc du Nord, de la Somme, du Nord, de l'Est, et donc reprendre des voies ERN. Et donc forcément, tu en prends ERN et tu en augmentes pour une gauche, certes parlementaire, mais voilà, bon. Et là, en gros, il leur manque 15 à 20 points pour pouvoir être majoritaire. Et donc, si on continue comme ça avec le RN qui gonfle ses scores, ben, peut-être ça sera la bonne pour Marine Le Pen en 2027.
Ouais, comme ça l'est en Suède, comme ça risque de l'être en Italie. On parle du territoire français, on va dire, mais quand on voit ce qui se passe dans le reste de l'Europe, ça fait peur, quoi. Il y a une grosse poussée, quoi. C'est. Ouais. Et je sais pas, on a autre chose, nous, dans la revue de presse pour ce matin
Je sais pas, moi, je parle maintenant de mon truc sur le Rwanda ou après?
Non, on va le faire après, hein, ça va faire une petite pause. Ouais. Après, dans la revue de presse, bah oui, voilà, tu parlais de Roussel, mais il y a un moment, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, peut-être lancer un petit appel à nos camarades communistes, mais qu'est-ce que vous vous emmerdez avec ce gars-là, quoi? Il y a un moment, il faut le dégager, quoi.
Vous avez vu que ça a été tagué,
leur
siège? Là, il y a eu des publications dans Nantes Révoltée, qui s'appelle plus comme ça, d'ailleurs.
Oui, ça a changé de nom.
J'essaye de retrouver le message exact.
Le message exact, crois que c'est la France des allocs te chie dessus, ou vous chie dessus.
Chie dessus, peut-être quelque
chose. Et puis un deuxième tag MEDEF aussi.
Un deuxième tag MEDEF, ouais. Que tu as la citation, non?
Non, c'est juste marqué MEDEF sur leur porte. C'est pas sur la même façade.
Simple, efficace.
Après, pour rebondir là-dessus, enfin, si tu veux juste avoir... quand tu dis qu'est-ce que vous foutez les communistes avec ce type-là, il faut savoir que Roussel, en fait, il est défendu par tout le monde. Enfin, il est défendu par tous les communistes sur les réseaux sociaux. Et c'est assez affolant, en fait, de voir le niveau... Enfin, moi, à mon sens, le niveau de malhonnêteté, en fait, intellectuelle. Ils essaient de le justifier. Enfin, on sait très bien que c'est une énorme bourde. On sait très bien que c'est pas un défaut de notre part. Enfin, on a l'impression que c'est un défaut d'appréciation des forces de gauche qui se sont outrées de ce discours-là. Mais en fait, non, il a dit de la merde. Son discours, c'est de la merde. Et il faut bien lui faire entendre. Et quand tu dis « qu'est-ce que vous foutez encore ?», le souci, c'est ça, c'est que ça reste un mouvement politique et les gens le apporteront leur support à ce genre de propos, même si dans le fond ils sont loin d'y adhérer, en fait. Ils vont lui trouver des excuses, ils vont lui dire que soit qu'il s'est mal exprimé, soit c'est que nous qui avons mal compris. Mais en fait, c'est le souci c'est que tu n'auras pas un mouvement, en tout cas, de la base des communistes ou même des élus. Tu n'auras pas un mouvement de départ massif suite à ces propos-là, quoi.
Non, mais... puis même, ils doivent être d'accord, en fait, même.
Non, mais... Pas tous, mais
après,
pas
non, mais après, tous, je veux... en fait, juste, moi, je dis mon point de vue et après, je me tais. On parle peut-être d'un épiphénomène politique qui est en train de mourir. Hein. Le PCF, je ne sais pas ce qu'il représente, plus grand-chose. Symboliquement, peut-être, ils représentent un truc. Bon, voilà.
Je crois qu'ils ont 40 000 adhérents de mémoire, quoi. Mais
bon, après,
ça a bien chuté, quand
même. Ils ont encore des élus. Du coup,
En fait,
on parle d'un truc qui est en train de mourir, qui n'a aucune importance, en fait, pour moi, au niveau stratégie politique, qui n'est plus rien.
Ça, on peut parler. Donc, de stratégie aussi, mais
depuis tout à l'heure, quand même, on a parlé de choses très importantes sur, je dirais, stratégie politique et idéologie, combat idéologique à mener. Moi, je pense que le terrain, là, aujourd'hui, il est dans l'imaginaire, en fait. C'est une bataille culturelle à mener, quoi.
Ah oui, bah.
Et nous, en fait, tout ce qu'on peut faire, je sais pas, hein, là, j'ai l'impression que déjà, on s'auto-organisait à Brest, là, dans notre quartier, dans notre coin. Voilà, moi, pour moi, c'est ça. Donc, commençons par ça. Donc, j'invite tout le monde à venir aux réunions à l'avenir, à rencontrer les collectifs qui existent sur Brest. Il y en a plein, en fait, qui font plein de trucs. Déjà, commençons par là, à nous rencontrer, à construire petit à petit des trucs. Là, on a parlé tout à l'heure, là, t'as rappelé les dates là, des manifs posées par l'intersyndicale, ouais. Et blablabla et tout ça. Bon, en fait, nous, on s'en fout un peu de ça. Essayez
ça nous permet des fois de se rencontrer, de recruter du monde.
Commençons à nous organiser, nous, à côté, ah oui, et oui, puis oui. Voilà.
Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que
l'un n'empêche pas l'autre.
Si tu y vas, tu peux rencontrer des gens, tu peux prendre des contacts. Moi, je pense qu'il faut avoir aussi des stratégies de recrutement, quoi. Ouais. Bah, pour renforcer l'organisation, pour gagner en puissance, quoi. Parce que tu peux pas te contenter de te dire, bah tiens, c'est bien, on est trois, on va se cramer à trois à faire 15 000 trucs. Tu vois, il faut toujours avoir l'idée qu'il faut être plus. Donc, pour être plus, il faut rencontrer des gens. Pour rencontrer des gens, tu peux aller à des endroits, tu vois, où il y aura des militants politiques, machin et tout, quoi. Mais tu peux aller partout, hein. Il faut être partout. Enfin, tu peux être...
La sortie des facs...
Ouais. On a parlé du syndicat tout à l'heure. Tu peux être dans le syndicat. Après, tu risques d'être broyé par la bureaucratie si t'es un syndicaliste révolutionnaire. Mais c'est quand même... Il y a quand même des choses à faire, des contacts à prendre avec des syndicalistes combatifs, moi, je pense, quoi. Après, sur le PCF... là, ils auront un congrès début 2023. On va voir quelle ligne va être validée. Après, il faut savoir qu'en 2018, ils avaient eu un congrès. C'était un manifeste plutôt progressiste par rapport aux précaires, aux chômeurs, aux réfugiés et tout ça. Et ça laissait pas du tout présager en fait la campagne réactionnaire de Roussel aux élections. Mais il y avait l'idée de garder une autonomie pour le PCF, donc avoir une candidature autonome. D'où peut-être cette stratégie de la distinction. Bon, il y avait un très bon article de Paul Elec sur Contretemps. Bon, là, je n'ai pas le titre devant moi, mais vous tapez Paul Elec Contretemps, vous trouverez en fait comment il analyse ça. En fait. Comment Roussel, du coup, a joué cette stratégie de la distinction. Donc surtout se distinguer de Mélenchon, de l'ANUPS, enfin des autres courants de la partie de l'ANUPS. J'ai pu voir aussi dans des vidéos ou des articles, mais que sur Mediapart notamment, que beaucoup de militants étaient pas d'accord avec cette ligne, et que je crois qu'il s'est fait siffler à la fête de l'UMA à un moment. C'est alors que Mélenchon, justement, d'abord il est pas con, il est arrivé, il a fait un gros discours marxiste, le capital, travail, la plus-value, les fondamentaux, quoi. Et pour jouer contre la tabruti qui parle de barbecue, de merguez et tout. Et franchement, son discours, ça envoyait, quoi. Par rapport à... Par contre, justement, dans ce discours, bon, peut-être on en reparlera après la pause, hein, mais si vous voulez en parler sur le manque de démocratie interne à LFI, il a dit un truc du genre « c'est fini, les Jérémiades, se battre la coulpe et tout, machin », pour viser Ruffin.
Ruffin et... il visait les deux, en fait, Ruffin et Roussel, quoi.
Pour moi, il visait surtout Ruffin, parce que... Après, d'ailleurs, dans une de ses dernières vidéos, Ruffin, à un moment, il finit par dire, par péter un câble, hein, s'énerver, on va dire, par dire « on me fera pas taire », quoi. Et là, tel des youtubeurs, tu sais, qui se clashent par vidéo interposée. Mais je ne sais pas si vous voulez continuer là-dessus, on fait une petite pause.
On pourra peut-être en parler dans d'autres midinales, parce qu'on a d'autres sujets aussi à amener sur la deuxième partie, qu'on va essayer de continuer à appeler, s'informer autrement, hein, même si nous, déjà, quand on s'informe autrement, parce qu'on lit des articles sur des médias qui ne... pas les médias mainstream, hein, qui sont beaucoup plus intéressants. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite pause pour clore cette première partie. Et donc une petite pause musicale, hein, comme on sait faire dans la midinale. Et comme on vient de rejoindre l'espace Pierre Perret, on ne pouvait pas s'empêcher, en première pause musicale, en premier morceau, de vous proposer un petit Pierre Perret. Et donc on va commencer avec Marcel. Et derrière, on enchaînera avec un petit Janis Joplin. Je suis très fort en anglais. Try. Right, try, ça suffit, non?
Yes.
Just a little bit harder. C'est ça, Nico?
C'est ça.
Bon, eh ben, on vous envoie Marcel, Janis Joplin, et on revient pour la deuxième partie.
Ce type-là, ni son mari ni moi, on le connaissait pas. Il est venu un matin de printemps exhiber son col blanc. Il nous parla de l'Atlantique et du sauvage Pacifique. Bien avant d'aborder Singapour, elle était déjà pour. Il a dit, c'est de poudre pilée de serpent que je brosse mes dents. Le plus fin, c'est sans doute la peau de zébu dont sont faits mes escarpins. Nous qu'on marche à côté de nos grolles, on a l'air plutôt tartignoles. Nous comme dentifrice, on se décrasse les crochets à l'Ajax. Elle lui disait Marcel, il s'appelait Marcel, fais-moi l'Africain. Il lui faisait l'Africain. Elle lui disait Marcel, dans les mares de Paname, fais-moi le tam-tam. Il lui faisait le tam-tam. Au Cap Griné, il jouait du cor au fond des bois avec les vaïnés. À Shanghai, il avait échangé des Chinois contre des porte-clés. Il avait mis des tigres en cage, il avait bouffé des sauvages. Aux vieux, il leur suçait les yeux, il paraît que c'est fameux. À ce type-là, on y a dit, on n'est pas des paumés, on est de Gennevilliers. Mon petit gars, j'y ai dit moi seul, personnellement, je connais même Orléans. Mais il avait vu l'Afrique noire, les plus grands trafiquants d'ivoire, tous les pays du Benelux, il connaissait Guy Lux. Elle lui disait Marcel, fais encore la mousson. Bon, passez-moi le sel. Il lui faisait la mousson. Elle lui disait Marcel, bois un verre de vin frais. Dis-moi, l'île aux pucelles, est-ce que ça peut être vrai? Un matin, ils se sont embarqués vers des contrées fleuries. Elle a dit, je quitte les îles Mollusques pour le paradis. Le vent du large, bon apôtre, les a poussés l'un contre l'autre. La mer était trop petite pour contenir leur amour. Un fol amour se consume au bout de quelques temps comme un feu de Saint-Jean. Le Marcel lui a dit retourne à tes deux guignols, bon baiser et bon vent. Du bateau elle ne vit que la Corse, en lavant les verres par force. Sans adieu, elle quitta Cupidon dans la soute à charbon. Au retour, elle dit, votre Marcel, c'est un fiefé salaud. Faites-moi le métro. On lui a fait le métro. Son mari a fait le zouave. Et moi le pont de l'Alma. Et pleurant de joie, elle retomba dans nos bras.
Just a little bit harder, so I can love. Some more, I said try.